Salut à tous et bienvenue dans ce hors-série de Tech Café qui va être largement consacré au monde merveilleux des montres connectées. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver comme occasionnellement pour plein de hors-série Guillaume Promet. Salut Guillaume.
Salut Guillaume et bonjour à vous auditeurs.
Et pour ceux qui te connaîtraient pas, on peut te présenter comme expert dans le secteur des dispositifs médicaux et créateur de contenu, notamment derrière le site qualitiso.com.
Exactement. Voilà, je travaille dans le médical et juste sur le volet créateur de contenu, je suis assez content parce que j'ai réussi à en faire mon métier. Et donc, je voulais encourager les auditeurs qui auraient ça en tête. Vraiment, il y a moyen de vivre du contenu qu'on produit sur Internet. Si vous êtes bon, que vous travaillez beaucoup et que vous apportez une réelle valeur ajoutée, de préférence à un public professionnel, il y a moyen que ça marche. Donc voilà, c'était une petite touche d'espoir.
On creuse un tout petit peu. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu ton principal métier ? T'as une rémunération là-dessus ? Comment ça se passe ?
C'est ça, mon métier si tu veux à la base c'est d'être consultant, de donner du conseil et tout ça je l'ai numérisé via un site internet avec des outils, avec des modèles en ligne, avec des moyens de faire des analyses automatisées. Ça remplace mon boulot et je propose ça aux professionnels moyennant un abonnement.
D'accord, excellent. Bah écoute, oui, c'est un très très bon exemple de comme quoi, quand on a la régularité et quand on diffuse le contenu qui est pertinent, eh ben ça paye. Écoute, sans autre forme de procès, on va parler de montres connectées. Alors, je dois le confesser, c'est à ta totale initiative, une fois de plus, qu'on va parler de ce sujet ensemble, sous l'angle un peu retour utilisateur. Et ce qui est peut-être intéressant aussi à dire aux gens qui nous écoutent avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que en plus d'être un soutien actif du financement participatif de Tech Café, tu as adopté une évolution dans tes usages et d'ailleurs tu avais diffusé il y a quelques temps un téléphone qui avait remplacé, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ton smartphone d'avant qui était un smartphone normal et qui est devenu un téléphone beaucoup plus réduit. Est-ce que c'est toujours le cas?
Ouais, j'étais passé au dumbphone, après j'ai été obligé d'abandonner pour des raisons vraiment professionnelles. Quand tu te déplaces dans des endroits que tu connais pas, à attendre des mails, à utiliser le GPS, le dumbphone a vite ses limites. Ouais. Néanmoins, niveau smartphone, là je suis passé sur un BlackBerry qui a l'avantage d'avoir tout un tas de boutons et si tu veux, ça interface physique peut t'emmener à moins utiliser les menus de ton téléphone, à moins se le consulter et à moins être sollicité par tout ce qui clignote. Donc c'est une autre manière de moins utiliser le téléphone, c'est via le BlackBerry, je passe plus par une interface physique que par une interface logicielle pour lancer mes applis, etc. Donc le dumbphone en 2019, c'est très très dur à tenir.
C'est bon à savoir, tu vois, on le promeut comme ça en disant c'est quelque chose qui remplace des usages chronophages. Bon, c'est pas si simple. Et surtout, donc, on en arrive à notre sujet des smartwatch. Comment t'en es venu à t'équiper d'une smartwatch, Guillaume ?
Smartwatch, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous l'avez vécu, on avait toute une campagne de pub sur Internet au pied des articles qui vous parlait des slow watch. Je ne sais pas si tu étais tombé dessus, ce sont des montres avec une seule aiguille qui font le tour en 24 heures.
Tout à fait.
Et ça m'a donné envie, figure-toi. Donc j'ai commencé à regarder ces histoires de slow watch et j'ai vu que c'était extrêmement cher. Donc je me suis dit, pour tenter l'expérience de la slow watch, autant acheter une smartwatch et mettre un cadran 24 heures, donc une seule aiguille, et pour tester tout ça. Et finalement, ça m'a surpris parce que j'avais vraiment des a priori négatifs sur les smartwatches, mais j'apprécie beaucoup l'usage et surtout, ça m'a libéré du téléphone et c'était un des objectifs.
Bah ça, c'est super intéressant parce que c'est l'argument qu'avancent ceux qui utilisent des smartwatches qui fait tout le temps sourire ceux qui sont sceptiques. On va pouvoir effectivement en parler ensemble. On a découpé ça, enfin, t'as proposé différentes rubriques qui me semblent plutôt intéressantes. Pour ceux qui connaîtraient pas effectivement l'univers des montres connectées, on a déjà quatre grandes familles. Donc Wear OS qui est un petit peu la version Android de, en tout cas proposée par Google pour faire fonctionner les smartwatches. La sempiternelle Apple Watch qui tourne sous Watch OS. Et on a aussi d'autres acteurs comme Samsung qui présentent des montres sous Tizen ou Tizen OS et Huawei qui propose LightOS. Comment t'as fait ton choix, toi, justement, parmi cet univers-là, et qu'est-ce que tu en as retenu de ces différentes crèmeries ?
Eh bien, par élimination, figure-toi. Donc, quand j'ai voulu m'équiper, effectivement, j'ai fait le tour des crèmeries. Très honnêtement, Google, j'en ai un petit peu ras-le-bol d'être envahi de Google. Et si je pouvais louper une occasion de lui donner une porte d'entrée sur ma vie, c'était avec plaisir. Donc, j'avais un a priori contre Google. Ça s'est confirmé quand j'ai vu des tests qui disaient que son OS, il n'était pas très agréable et qui bouffait la batterie à vitesse grand V. Donc, ça a fini de m'achever. Ensuite, on a watchOS d'Apple, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je ne mange pas spécialement de pommes, donc j'aurais été bien embêté avec mon Apple Watch. Ensuite, on parlait de Huawei. Non,
J'arrive pas.
Huawei. là aussi, c'est un petit peu mon point commun avec Donald Trump, c'est que j'ai vraiment des a priori négatifs sur Huawei. Quand je vois comment la Chine traite ses citoyens, je me demande comment est-ce qu'une entreprise à moitié étatique va traiter ses consommateurs. Donc là aussi, c'est un peu comme Google, si je peux éviter d'aller chez Huawei, j'évite. Et donc, il restait Samsung. Samsung, j'entends pas trop parler dans les scandales de la semaine que vous
C'est vrai,
relevez sur,
c'est vrai.
sur Tech Café. Donc c'est parti, d'autant plus que l'OS avait très 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 bonne presse dans le sens où il est agréable à utiliser. Donc voilà comment j'ai fait mon choix par élimination.
Ouais, j'ai aussi le retour d'expérience d'un proche qui a son iPhone mais qui utilise aussi une Galaxy Watch Samsung. J'ai l'impression que c'est celle qui offre le plus grand rapport entre le compromis des usages effectivement et de la versatilité des différentes fonctionnalités. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, on enchaîne logiquement sur la partie plus matérielle parce que c'est un élément si on doit en retenir un principal qui est incontournable dans le choix d'une montre, c'est quand même le design global. Et quand je parle de design, c'est pas que de la tronche et pas que du rendu sous l'angle de la mode, mais vraiment comment est-ce qu'on va interagir avec, comment est-ce qu'elle va s'insérer dans notre quotidien. Faut quand même se rendre compte que c'est, allez, il y a peut-être les lunettes qui vont arriver, mais que c'est l'élément technologique porté qui va être le plus visible et qui va le plus se remarquer. Il y en a sous toutes les formes. Il y en a notamment des carrés, des ronds. Là, qu'est-ce que tu as pu remarquer dans le panorama des différents formats et qu'est-ce qui a encore une fois de plus retenu ton attention?
Déjà, c'est triste à pleurer, hein. Comme tu dis, il y a que du carré et du rond. Bon, en même temps, on n'avait pas à se mettre à faire des étoiles ou des choses comme ça. Une petite remarque, je suis tombé sur une étude qui a été menée par des universitaires. C'était en Asie sur 200 personnes et on leur a proposé des watches identiques avec des applis et des interfaces identiques. Si ce n'est que pour une partie des gens, c'était un écran rond et pour l'autre partie des gens, c'était un écran carré. Et de ce retour, la conclusion était que le carré a pour lui qu'il est plus pratique d'un point de vue tactile, ce qui se comprend, hein. Tu prends un rond, en fait, c'est un carré où tu t'es finiqué quatre coins, en fait, hein. Donc, c'est autant d'espace en moins. Donc, le carré est plus pratique. Par contre, le rond est mieux ressenti, mieux perçu, parce que ça a un côté naturel et puis aussi ça en écho avec l'image qu'on a des montres usuelles. Et le côté rond est plus efficace également pour des interfaces machines, pour représenter des choses. Les utilisateurs trouvaient qu'exploiter des interfaces circulaires avec, tu sais, des paragraphes circulaires, des disques qui s'emboîtent ou des choses comme ça, on peut représenter beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'était la conclusion de cette étude que le carré est plus pratique, mais le rond se vit mieux en dehors de l'aspect pratique.
Alors, si je résume, toi, tu as donc une montre format rond.
Rond parce que bah
Il n'y a
voilà,
que
moi j'ai
ça, non, chez
la
Samsung. Il n'y a pas de
galaxie.
carré.
Bonne question.
Je ne crois pas qu'il y en ait.
Je crois pas qu'il y en ait des carrés. T'en as chez Sony. Je crois pas qu'il y en ait chez Samsung.
Non, je crois pas, effectivement.
Rond et puis carré, je t'avoue, j'en ai marre d'avoir des écrans carrés autour de moi. C'était pour changer aussi un petit peu. Puis c'est plus discret, une montre ronde, si tu veux, les gens voient que tu as une montre carrée, les gens voient que tu as une smartwatch.
Exact, exact. Alors il y a aussi la particularité, avec un carré, on peut faire un rond dedans. Avec un rond, tu
Oui.
peux plus difficilement faire un carré dedans, ou en tout cas, il va être plus petit, même si c'est jouable. Donc moi, vous l'avez compris, vous le savez maintenant, hein, je pense, j'utilise une Apple Watch au quotidien. Et j'avoue que je me sens très, très, très perturbé, mais c'est des histoires d'habitude, puisque moi, j'ai toute l'interface carrée. Donc à chaque fois, quand je lis des SMS, des notifications, des portions de mail, bref, toutes les informations au format carré, j'ai l'impression que j'ai toute l'information qui s'affiche bien à l'écran. Par contre, quand j'ai vu fonctionner des montres au format rond, j'ai toujours ce sentiment d'avoir l'impression du texte qui est tronqué en bas à droite et en bas à gauche. Alors, du coup, retour d'expérience, ça concrètement, quand on a une montre ronde, c'est pas gênant, c'est ça?
C'est pas tronqué si tu veux, c'est juste que la première phrase elle aura deux mots, la seconde phrase elle aura cinq mots et au milieu t'en auras six, sept et ensuite ça diminue. Donc tu ne perds pas de texte. Après évidemment à hauteur égale, tu mets moins de mots, donc t'es amené à plus scroller d'un côté ta montre. Honnêtement, passer deux paragraphes, il faut que tu allumes ton téléphone
On est
pour lire
d'accord,
un texte.
c'est vrai.
Donc je me sens pas hyper perturbé par ça parce que les consultations se limitent à lire deux, trois phrases, quoi.
Ouais. Il n'y a pas que la taille qui compte, et quand même, il y a des très très grosses montres connectées. C'est un peu la crainte qu'ont certaines personnes quand on parle de montres connectées, c'est que elles se retrouvent avec une espèce de gros appareil mal pensé au poignet qui soit très très épais. Alors, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Ça a été un critère déterminant aussi pour toi, pour ton choix d'appareil?
Bah moi j'ai des mains de bûcheron donc c'est pas très
Ah,
grave
ça va, ça passe
effectivement
bien.
ma montre quand je la fais essayer parce que les gens sont curieux a des petits gabarits, tu prends des petites nénettes, tu leur mets une montre format épée, on dirait qu'elles ont une montre de plongée, c'est d'un
Ouais.
ridicule sans nom quoi effectivement. Après ben t'es bien embêté, tu peux pas caser la techno et la batterie si tu prends pas de la hauteur.
Ah, tout à fait, tout à fait. Justement, autonomie, qu'est-ce que tu as constaté, toi, dans tes usages en autonomie? Là aussi, il y a une espèce de vision largement partagée de tout, ce qui est de dire quand on tient une journée, c'est un exploit. Bon, c'est peut-être pas. Ça a pu évoluer un petit peu et je pense que
Non.
c'est pas si simple. Toi, c'est quoi l'autonomie que tu constates?
Non, la philo, c'est si tu tiens une journée, c'est un scandale. Il y en a ras-le-bol de brancher des EQ lithium à des chargeurs toute la journée. Surtout que la montre, elle passe son temps à être éteinte quand même. Donc les montres qui ne tiennent qu'une journée, ça me surprend beaucoup, beaucoup. La mienne, c'est 4-5 jours.
Ah, quand même 4-5 jours, ok. Moi j'avoue que l'Apple Watch, hein, elle dépasse pas les 2 jours, ça c'est une certitude, en usage normal. Donc tous les soirs je la pose sur mon socle, ce qui en soi me gêne pas parce que je porte pas de montre la nuit, mais je peux tout à fait comprendre qu'il puisse y avoir ce besoin. Et notamment quand tu pars en week-end, c'est génial d'avoir à se dire bah j'emmène pas de chargeur et je
C'est
sais que ça
ça.
va tenir le week-end, quoi. Moi
Et
j'ai
tu te
toujours.
débranches le cerveau. En plus, on commence à avoir l'habitude avec les téléphones qui tiennent 2 jours maintenant, facile. C'est un retour en arrière que de recharger tous les jours.
Effectivement, il faudra que ça avance à ce niveau-là. Allez, prise au poignet, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe, toi, ton interaction avec des montres connectées? Là aussi, je pense que ça va intéresser les personnes qui pourraient être curieuses, mais qui n'ont jamais pris le temps de faire des tests. Fais-nous part un petit peu de ton retour d'expérience globale.
Alors ça aussi, ça a motivé le choix de la Samsung Galaxy. Je vais te faire écouter un truc, je sais pas si tu m'entends. T'entends ou pas?
Ouais, c'est des petits cric-cric-clic simulés quand
Voilà.
tu fais tourner la roue, effectivement. J'ai ça aussi
Il y a
sur
une
Apple Watch.
roue.
Ouais.
Ça doit te rappeler le bruit. Hein. C'est un petit peu l'interface du iPod, moi je trouve que ça me rappelle.
Ah.
Donc tu fais tourner un cadran et ça te fait aller dans les menus, etc. Ce qui est extrêmement agréable avec cette interface, c'est que comment dire, je sais qu'en faisant tourner de trois crans le cadran, je serai sur mon agenda. Si je le fais tourner de quatre crans, je serai sur mon lecteur de son audio. Donc ça fait que ce cadran, juste en sentant l'écran passer, t'arrives à naviguer sans regarder ta montre. Donc c'est très agréable. Et puis ça te fait un vrai retour haptique. Donc t'as le cadran rotatif et en plus
C'est
t'as deux vrais boutons. Ouais.
excuse-moi pour être bien clair, hein, c'est bien le pourtour de l'écran qui pivote
Oui.
comme une sorte de grosse couronne qui entoure l'écran et tu fais tourner, quoi.
C'est exactement ça, c'est un disque de iPod qu'on aurait mis autour de l'écran qui est rond. Donc là aussi, on est dans la même logique d'exploiter le côté circulaire et vraiment c'est agréable. Rappelle-toi de l'iPod, c'était une interface
C'est clair.
machine super agréable quoi, à faire tourner comme ça dans tes playlists et clac, 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 clac. Donc je le retrouve avec beaucoup de plaisir. C'est plus facile à prendre en main que, tu sais, les petits boutons qu'on tourne comme les montres à l'ancienne pour les remonter, quoi. J'imagine ça doit être plus pratique. Et puis j'ai deux vrais boutons physiques qui, en gros, bah, c'est retour en arrière et home, quoi.
Ouais, d'accord, donc c'est les équivalents des interfaces de navigation d'Android qu'on peut retrouver naturellement sur une montre, mais bien intégrées, quoi.
Sauf que là, on n'est pas sur Android, hein, je te rappelle.
Bien sûr, on est sur Tizen, ouais, tout à fait.
Après, t'as pas l'embarras du choix, hein. Tu retournes en arrière, tu retournes à la maison et tu vas devant, derrière. Avec ça, tu fais beaucoup, beaucoup de choses.
Ouais, bon, il n'y a pas besoin d'avoir un choix de fonctionnalités complètement dingue pour si on peut tout faire de cette manière-là, et
Non.
si c'est assez simple.
Et encore une fois, énorme plaisir que d'arrêter de caresser un écran en longueur de journée et d'avoir des boutons qui font clac, clac, clac. Et je t'avoue que de manière générale, j'ai ce rapport avec la tech que je fuis de plus en plus les interfaces tactiles pour avoir des boutons, des trucs que t'actionnes, t'entends le bruit, tu le sens dans tes doigts si c'est on, si c'est off. overdose d'interface tactile.
Ouais, je comprends. Alors, je fais toujours un petit peu le parallèle et j'essaie de comparer un petit peu moi avec ce que je constate avec avec l'Apple Watch. Je trouve que la ce qu'ils appellent la Digital Crown, qui est ni plus ni moins qu'un bouton qui se tourne sur le côté, est plutôt malin aussi. Alors, il n'y a pas sans doute ce même plaisir que de faire tourner la couronne telle que toi tu le décris. Pour autant, cette petite sensation avec les petits retours haptiques et les petits bruits qui sont générés sont hyper agréables. Et moi aussi, j'avoue que les fois où j'ai besoin d'intervenir au doigt sur l'écran de la montre, bon, c'est pas grave, c'est pas bloquant, mais c'est un peu emmerdant, quoi. Alors, on se pose des questions assez naturellement avec un écran. Comment tu fais pour écrire ? Est-ce que tu peux ? Et si oui, comment tu fais pour écrire du texte sur une montre ? Est-ce que tu peux rédiger des articles de blog sur ta montre ?
J'ai fini mon autobiographie sur ma montre.
Ah, c'est bon.
Je me suis arrêté la première seconde, la première minute, la première journée de ma vie, tellement que c'est chiant de taper quelque chose sur une montre. Donc, c'est absolument pas fait pour ça. Chez moi, il y a plusieurs moyens. Je peux dessiner des lettres avec mon gros doigt. Et là, bah, t'en as pour une demi-journée pour finir un SMS. Ouais. Tu peux utiliser un gros T9 dégueulasse sur un espèce de ça reprend si tu veux un clavier de téléphone des années 90, donc t'arrives à te débrouiller mais c'est dégueulasse, ou alors t'as la dictée vocale, et là j'ai l'espèce de bousasse gérée par Samsung, donc c'est très peu efficace, et de toute façon, je vais te dire, moi qui ne parle pas à mes enfants, si je commence à parler à une machine, ils vont mal le prendre, ça risque de les perturber.
Je comprends. Et là, il n'y a pas de secret, hein. Enfin, je pense même sur Apple Watch, là aussi, pour continuer à faire le parallèle, il n'y a pas de solution miracle. Il y a la possibilité de griffonner les lettres, qui est une solution qui est la moins mauvaise quand on veut dire pizza ou burger. À la limite, ça, si on veut répondre juste un mot, ça peut être pas mal. Le mieux, ce serait que l'intelligence artificielle soit suffisamment intelligente pour nous proposer bien les bonnes alternatives possibles dans les réponses pour qu'on ait plus qu'à la sélectionner, mais c'est pas encore au point. Et puis, effectivement, la dictée vocale. En fait, je trouve que globalement, la dictée vocale, ça marche très bien. Le problème, c'est que ça ne marche pas parfaitement. Et la dictée vocale, on n'a pas besoin qu'elle marche très bien. On a besoin qu'elle marche parfaitement. Si jamais il y a un mot sur 20 qui va pas, mais que c'est un mot qui est assez structurant et qui te fait passer pour un débile, c'est bloquant finalement.
Et voilà. Et va naviguer avec tes gros doigts pour aller choper ce mot dans la liste de mots et tu t'énerves et à la fin, t'allumes ton smartphone parce que ça ira plus vite.
C'est un parti pris, hein, de toute façon, de se dire, quand je commence à interagir avec du texte, c'est que soit je dois pas le faire maintenant, et donc le filtrage de la montre joue bien son rôle, soit je dois changer d'appareil. Je crois que c'est une bonne manière de réorienter un peu les usages. Tu parlais du gâchis à gaucher. Est-ce que c'est...
Vite fait.
T'es gaucher, toi ?
Non, je suis pas gaucher, mais j'ai vu des gauchers se plaindre des interfaces. Typiquement, la mienne, bah, y a les boutons à droite. Si je la retourne, je pense qu'elle est trop con pour savoir que je suis gaucher. Donc, les gauchers, ils vont galérer. Et je vois des gens qui demandent comment un petit peu modifier les ROM ou avoir des versions alternatives, etc. pour avoir une interface gaucher quand les fabricants n'y pensent pas.
C'est invraisemblable parce que c'est une personne sur cinq, je pense, en moyenne, qui est gauchère. Si on doit essayer de faire un match de fond, hein, Apple Watch gagne largement sur ce point-là parce que pour le coup, qu'on soit gaucher, droitier, on peut l'orienter dans le sens qu'on veut, on peut lui dire de mettre les boutons dans le sens qu'on veut, ça c'est plutôt cool. Parfait. Alors, qu'est-ce que on peut faire avec une montre connectée à part voir l'heure et interagir sur des notifications? Et c'est quand même vachement important. On va en reparler tout à l'heure de tous les usages de ce qu'on peut avoir avec une montre connectée. Il y a aussi la fonction de capter des données liées à notre activité. Je crois que c'est un axe fort qu'ils utilisent, hein, tous les constructeurs quand ils mettent en avant les montres connectées. C'est quoi, toi, que tu as pu remarquer en termes d'usage, de fonctionnalité et de ce qui te sert concrètement au quotidien?
Rien, honnêtement, je me sers absolument pas des capteurs.
J'étais à peu près sûr que tu dirais ça.
Ouais, mais j'ai pas le besoin et je me le suis pas inventé. Par contre, j'y joue avec, évidemment, parce que je veux dire, purée, on parle de monde connecté. Moi, c'est un fantasme que j'avais depuis il y a 30 ans, Sophie dans Inspecteur Gadget ou David Hasselhoff avec K2000. Donc, évidemment, j'ai eu ma montre, je me suis amusé avec toutes les options, dont les capteurs. Les capteurs, classiquement, ils vont regarder votre rythme cardiaque. Tu sais, c'est un capteur opto qu'on voit la lumière et selon comment elle rebondit sur ta peau, on arrive à deviner un petit peu le flux sanguin, à avoir le rythme cardiaque. Ensuite, tu as Apple, bon, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps.
Le cardiogramme, ouais.
Voilà, son ECG. Donc, c'est pas juste une mesure opto, il y a en plus une mesure du signal électrique. Et on dit que c'est mono-électrode, enfin mono-voix, parce qu'il n'y a qu'une seule mesure, là où les vrais ECG peuvent en faire une douzaine, mais déjà, c'est pas mal. Okay. Sinon, dans les trucs de base, eh ben, ça fait quoi? Ça comptait pas comme un téléphone. J'en ai vu, la mienne a un baromètre. Je sais pas si t'en as un. Je sais
Non,
pas
je crois
si
pas que
ça
j'ai de
te
baromètre,
sert à
non.
grand chose.
Non, je vois pas trop à quoi ça me servirait spontanément, mais
Pour
pourquoi pas.
la météo et aussi pour des gens qui font des randos, je crois.
Ok.
Ça les intéresse. Baromètre et altimètre également. Tu sais, ça doit être corrélé. Après, c'est à peu près tout. Je sais pas si tu as d'autres capteurs, toi, dans ta montre.
Spontanément, il n'y a rien qui me vient et surtout, de manière générale, il n'y a pas d'autres choses qui me paraissent pratiques, en fait, concrètement pratiques. C'est que, effectivement, tu as raison, bon, on peut compter le nombre de pas, l'activité, le rythme cardiaque, mais finalement, est-ce que ce sont des données dont j'ai réellement besoin? Je suis pas sûr. Il va falloir en apporter quelque chose. Moi, j'aime bien la proposition qu'il y a dans iOS 13, qui est actuellement en bêta, qui est de dire que sur la base de toutes ces données captées, il te renvoie des conseils ou des informations. Il va falloir voir si c'est pertinent, c'est pas gagné, mais j'aime bien cette approche en tout cas de dire on en fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui il y a la non-vertu de la collection des données qui servent à rien. Moi je sais que je me suis énormément écarté, on en avait déjà parlé, de la captation des rythmes du sommeil qui en plus n'était pas fiable du tout, je pense. Donc il faut en faire quelque chose de ces données.
Le sommeil, je précise, la mienne a deux manières de le mesurer. Soit en gros, elle regarde si je bouge pas, s'il y a de la lumière, donc c'est si je dors ou si je dors pas. Soit en plus, elle utilise le capteur cardiaque pour essayer de deviner le cycle de sommeil, tu sais, profond, léger, paradoxal, etc. J'en ai pas plus quelque chose à carrer que ça, hein, mais ils se sont amusés à faire ça, quoi. Et sinon, moi, le nombre de pages en usage détourné, c'est que ça m'indique à quel point j'ai bossé, en fait, parce que
Ah, quand
je.
tu as fait pas beaucoup de pas, c'est que tu as beaucoup bossé, c'est ça, non?
C'est l'inverse. Quand je bosse,
Ah,
je
c'est
fais les 100
l'inverse.
pas, mais comme un salaud.
Ah.
Je marche, je marche, je marche. Donc, si j'ai pas mes 20 000 pas dans la journée, c'est que j'ai pas assez travaillé, quoi.
D'accord. Ah oui, alors effectivement, c'est corrélé à ton usage bien particulier. J'imagine qu'il y a plein de monde pour qui justement c'est l'inverse, mais c'est
Ça
intéressant
peut
de
être
voir ça.
l'inverse aussi.
Ouais.
Voilà.
Alerte, vous avez trop fait de pas. Pour votre santé, c'est bien, mais vous n'avez pas assez bossé. Alerte, alerte. Ok, allez, on enchaîne avec les grandes pratiques qu'on peut avoir avec une montre connectée. Et là, ça va peut-être vous donner envie ou donner du grain à moudre à ceux qui sont sceptiques aujourd'hui en se disant, ouais, c'est un appareil de plus, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Allez, on va tenter de répondre à notre manière avec nos usages. Guillaume, qu'est-ce que tu fais concrètement avec ta montre?
Je consulte. Voilà. Il faut se dire que mon téléphone, déjà, c'est mon centre de notification. Et ces dernières années, ça l'était devenu beaucoup trop. Ça fait que j'étais emmené à allumer mon téléphone toutes les 5 minutes, quoi, à chaque fois que t'as un truc qui clignote, etc.
Ah, t'es pas le seul, je pense. Ouais.
Voilà. Donc, bon, il y a eu plusieurs étapes. Dégager des notifications, changer les périodes de relever des notifications, etc. Ça, c'était vraiment au niveau du téléphone. Mais je me retrouvais toujours toutes les 5 minutes à allumer ce foutu téléphone. Et quand tu allumes un téléphone, tu as toujours un autre truc qui t'attire à l'œil.
Absolument.
Et quand tu pars sur une action, t'en fais trois et à la fin, tu as perdu du temps, quoi. Donc l'usage vraiment de la smartwatch, c'est de vous dire que c'est des notifications déportées. Toutes les notifications que vous avez à l'écran, elles seront sur la watch, ce qui sera autant de raisons en moins d'allumer l'écran. Et en fait, on se rend compte que dans la journée, au moins 80% des infos qu'on a, soit c'est pas pressé, soit juste en tenir compte à l'instant et répondre plus tard, ça ira très bien. Et voilà, donc la watch me tient au courant des notifications, m'empêche d'allumer mon téléphone. Je ne cache pas que du coup, je rate des conversations parce que les notifications s'enchaînent et au bout d'un moment, t'as oublié la 12e, enfin celle qu'il y avait eu 12 avant.
Ouais.
Mais du coup, ça fait le ménage parce que les choses pas importantes, je les oublie et ça permet de se recentrer.
Moi,
Donc voilà, vraiment un centre de notification.
je partage vraiment ton avis et j'irais même repréciser un petit peu le fait que ce soit pas simplement un smartphone qu'on puisse avoir sur son bureau ou qu'on ait dans sa poche, mais que ce soit vraiment quelque chose qui soit quelque part un peu intrusif d'être sur le poignet, avec en plus les notifications éventuellement par retour haptique qui font que, enfin, ça nous interpelle physiquement, quoi. Moi, ça m'a obligé à trier énormément les notifications que je reçois sur ma montre, et je reçois bien bien moins de notifications sur ma montre que sur mon téléphone. Et ça t'oblige à avoir cette phase de tri où tu te dis quelles sont finalement les notifications qui sont véritablement importantes. Et on peut vraiment les réduire comme peau de chagrin et du coup gagner effectivement énormément de temps. L'étape ultime, c'est de même plus avoir besoin de son smartphone et de partir en mobilité qu'avec son téléphone, où effectivement là je pense qu'on gagne encore plus de temps. On risque d'être un petit peu bloqué sur certains usages, on le disait tout à l'heure, dès qu'on doit envoyer une phrase ça risque d'être compliqué, mais c'est
et
un peu
puis,
l'étape ultime.
Moi ma montre elle est packagée, par exemple elle est wifi mais il n'y a pas de 4G à l'intérieur, donc si j'ai pas le téléphone elle sera moins smart.
Ouais, effectivement. Moi ça c'est un truc que j'apprécie, ça, du coup tu vois, d'avoir cet aspect cellulaire. Là je suis chez Orange et j'ai la période offerte avec le forfait qui va bien, et les rares fois où j'ai pas mon téléphone, je m'en porte pas plus mal et ça fonctionne relativement bien.
À terme ça te fera un forfait de plus.
Ouais, à terme, ce sera vraisemblablement un forfait de plus, ou au moins, durablement, une option en plus. Donc ça, c'est effectivement merdant.
Ouais, je vais éviter de passer par là.
c'est peut-être des étapes intermédiaires, mais effectivement, à partir du moment où je vais devoir payer mon forfait pour ça, je vais sans doute résilier, mais dans la phase de test, c'est intéressant, je trouve.
Juste, je précise, les notifications, il y a moyen d'être discret aussi. Ça se voit moins ce qu'on va glander sur les notifications avec une montre qu'avec un téléphone qu'on sort de la poche en réunion, qu'on déverrouille, etc. Paf, ça peut être discret, on a l'impression que je regarde l'heure, alors qu'en fait, je fais le point sur le futur week-end, quoi.
C'est le seul, d'ailleurs, élément qu'on pourrait critiquer, c'est que quand on regarde souvent sa montre pour les notifications, les personnes en face, quand on interagit avec plein de monde, qui sont pas forcément habitués, peuvent avoir l'impression qu'on s'ennuie et qu'on montre clairement qu'on en a marre. Moi, c'est un truc que j'ai remarqué à 2-3 reprises. Et on me dit, ah oui, excuse-moi, je vais écourter la réunion. Alors, deux solutions possibles. Soit, effectivement, la réunion est trop longue et tu dis, oui, bah, effectivement, c'est vrai que j'ai quelque chose d'autre derrière. Soit tu dis, non, il faut que tu apportes un petit peu de pédagogie en disant que tes notifications, c'est parfois que des infos et pas forcément que tu t'ennuies. Mais ça peut être dérangeant pour les autres.
Et c'est comme le téléphone, hein, tu peux ta montre en allant en réunion. Hein,
exactement.
Et puis, voilà. L'autre situation, c'est pendant les moments intimes que vous pouvez partager avec votre moitié. Coupez votre montre, il n'y a pas moyen de recevoir un mail du boulot pendant ce genre de situation. C'est vraiment, ça casse tout.
On est d'accord. Et c'est moins facile que de retirer un smartphone de la poche, mais c'est quand même pas très compliqué de détacher une
montre. Et puis ça vibre en plus, je veux dire, tu peux pas y couper, quoi. Et puis là, je te dis pas le regard qu'on te jette. Bon, bref, c'était la parenthèse.
C'est détourné, effectivement. Alors, une montre peut servir de télécommande. Dis-nous comment tu t'en sers de télécommande, Guillaume.
C'est un des intérêts également, en plus d'être un centre de notification. Ça me sert, après je suis assez limité par les applis que j'ai avec Samsung, hein. J'imagine qu'avec Apple t'en auras beaucoup plus. Donc ça me sert de télécommande déjà pour le lecteur audio, que ce soit podcast ou musique. Je joue tout ça avec le téléphone et puis je peux régler le volume devant, derrière, pause, accélérer. Je m'y retrouve notamment, je fais de la musique et quand je suis derrière un instrument et que je joue par-dessus de la musique, c'est plus pratique d'avoir ça à la montre que de devoir attraper le téléphone à chaque fois. Donc pour ça, c'est pratique. Du coup, t'en oublies carrément ton téléphone. Et là, il y a une très bonne fonction de télécommande, c'est de faire sonner ton téléphone avec ta montre quand
Exactement.
Tu l'as perdu.
Absolument.
Voilà.
C'est une fonction, mais presque c'est une des fonctionnalités clés dans le fait d'avoir une montre. Ouais.
C'est ça, surtout qu'encore une fois, avec ta montre, tu vas oublier ton téléphone et ce sera pire qu'avant. Tu ne sauras jamais où est-ce qu'il est. Donc là, moi, je fais 2 tours de cadran, j'appuie et paf, ça fait sonner mon téléphone et il était coincé derrière le coussin du canapé. J'arrive à le retrouver. Rien que ça, je te dis pas, purée, mais j'ai gagné des heures par an parce que si tu vois, c'est 2-3 minutes par jour multiplié par 365, mais c'est affreux.
Alors, j'avoue que dans mon cas, c'est pas si fréquent que ça, mais alors par contre, je suis capable de chercher longtemps. Donc, toutes les fois où ça m'a permis de le retrouver, ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que ça c'est très pratique. Il y a la fonction de télécommande aussi. Alors, pour ceux qui aiment l'écosystème Apple et qui ont une Apple TV, le fait de pouvoir commander leur Apple TV avec la montre, c'est hyper puissant. Et puis, tu parlais du lecteur audio que tu as, avec lequel tu lis du contenu audio sur ton smartphone. Là aussi, sur Apple Watch, il y a le fait de pouvoir consulter ton contenu directement depuis la montre. Et mes podcasts sont synchronisés sur la montre. Et là encore, si je me place dans le scénario où je n'emmène pas mon téléphone avec moi, j'ai mes podcasts qui sont consultables sur la montre, soit parce qu'ils sont synchronisés.
Ah, ça
dessus,
c'est cool.
Soit parce que je suis sur Internet. Ça, du coup, avec les AirPods, c'est vraiment un super usage.
Parce que je t'avoue, je connais des gens un petit peu bizarres qui ont le tort d'être sportifs, et donc ils se posaient la question de se débarrasser de leur téléphone ouais. pendant qu'ils vont faire du running, parce que ils s'en servent comme GPS et comme musique. Et ça les gonde d'avoir ça. Ils pensaient à switcher sur une watch. Et si tu me dis que sur ta watch, on peut télécharger les podcasts, moi, ça, je peux pas le faire.
L'Apple Watch permet de le faire, ouais.
D'accord, ça, c'est cool. Peut-être que je peux, mais j'ai...
T'as pas creusé.
Il y a rien de direct, en tout cas. Voilà.
C'est pas intuitif.
J'ai plus trop le temps d'aller geeker et de trouver des solutions alternatives.
Bon, bah parfait. Alors la consulte...
télécommande, oui. Hop là, juste télécommande. Je m'en sers également. Je fais des formations et c'est la classe atomique. Quand ton PowerPoint, tu le pilotes avec ta télécommande. Et puis ça a d'autres vertus. T'as pas te garder la souris à la main ou à toujours te péter l'eau sur ton clavier. Et puis c'est la classe, quoi.
J'ai une question pour toi. Est-ce que tu serais intéressé par le fait d'avoir une application sur ta montre qui permette de rythmer ta présentation, qui te servirait dans un premier temps déjà à te mettre des limites, donc à te dire au bout de 20 minutes, bon ça c'est un peu comme un timer, hein, mais qui te dirait au bout de 20 minutes ça vibre et ça te dit qu'il est temps que tu termines ou quelques minutes avant, mais surtout que ça séquence ta présentation et que tu sais que pour tenir un rythme que tu pourrais paramétrer, tu sais que t'as besoin d'une notification, ne serait-ce que par vibration toutes les 2 minutes pour te donner un peu de rythme. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider sur ta montre ou pas du tout?
C'est pas idiot. Moi, j'en ai pas besoin parce que les présentations sont plutôt au cordeau, quoi. Donc, ouais. J'ai pas besoin d'être rythmé.
D'accord. Bon, c'est un truc que je continue à réfléchir.
Par contre, pour le rythme, c'est plus pour la musique. Là, je reviens. Ah. Je fais de la batterie et une petite appli qui pourrait. Il y a des applis métronomes qui te font des vibrations. C'est assez perturbant, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur enregistrer comment tu bouges tes mains, enregistrer les sons qui viennent et faire une espèce de coach assistant pour les musiciens.
Ouais.
Les bonhommes se sont acharnés sur le sport, mais pour la musique, je pense qu'il y a des choses à faire. Mais bon, là, on sort de l'optique télécom.
Effectivement, mais c'est intéressant. Il y a tout un champ d'activité à développer. Alors la consultation, bon bah ça c'est quelque chose qui me paraît assez basique, mais qui sur lequel on peut quand même se réattarder un petit peu. La consultation de l'heure, de la météo et d'autres informations. Là aussi, c'est quoi ton retour d'expérience?
Eh ben, j'ai arrêté d'allumer mon téléphone rien que pour avoir l'heure, mais rien que ça, c'était au moins 40 verrouillages par jour.
Ouais, ouais.
Et 40 sollicitations de notifications de ce que tu veux, en plus pour aller glander ton téléphone.
Il y a des bonnes raisons qui vont dire, hein, mais attends, tu découvres la montre, Guillaume, on peut faire ça avec une montre classique.
Tout à fait, je découvre la montre, Guillaume. Les montres, j'avais lâché l'affaire depuis la flic-flac, là, au primaire. Je sais pas ouais. si toi aussi t'es des années
bien
80,
sûr,
mais.
Bien sûr, la flic-flac, ouais, je me rappelle depuis. Ouais.
Voilà. Donc, ça m'a pas traumatisé de rajouter un truc au poignet, mais clairement, depuis qu'on avait les téléphones, je me dis, oh, t'es trop con d'avoir une montre quand t'as l'heure au téléphone. Eh ben non, on fêtera le cul d'allumer son téléphone pour avoir l'heure. Et une montre fait l'affaire, et surtout que, je te dis, moi, je profite de cette interface Slow Watch. Que j'aurais du mal à retrouver ailleurs.
Moi, sur la partie montre, il y a quand même des trucs que je trouve intéressants sur une montre connectée. C'est le fait de pouvoir mettre les fuseaux horaires qu'on veut en plus des heures qu'on a. Moi, j'échange souvent avec Matt qui est au Québec et je sais à peu près n'importe quand, c'est assez discret dans mon cadran, mais je sais à peu près n'importe quand quelle heure il est chez lui. Donc là, par exemple, en ce moment, je vais pas l'appeler parce qu'il est 6h30, mais je sais quand ça va être une période de la journée où je vais pouvoir l'appeler, où on va pouvoir échanger un petit peu plus facilement.
C'est vrai. Et puis l'autre avantage des smartwatches, c'est que les cadrans, vous pouvez en changer assez fréquemment. On a des cadrans qui reprennent des codes montre à aiguille, montre digitale, des petits Mickey qui bougent les bras, des interfaces 24 heures, des trucs qui clignotent dans tous les sens, qui te racontent la météo, tes mails, ton nombre de pas, etc. Vraiment, il y a tout un tas d'interfaces et vous n'avez pas le temps de vous lasser. Quoi.
Si vous n'êtes pas allergique, si vous n'êtes pas victime du dilemme du choix, je pense que vous trouverez plus votre bonheur dans les montres non Apple, parce qu'effectivement chez Apple c'est un peu plus limité sur l'Apple Watch, même s'il y a une bonne variété de cadrans, il n'y en a pas une aussi grande variété que quand il y a un store à part entière sur les autres montres.
D'accord.
La météo, c'est la préoccupation numéro 1 des Français en plus.
Oui, bon, moi j'habite dans le sud, donc c'est pour savoir s'il fera beau ou très beau, c'est tout. Mais quel enfer.
En Picardie aussi, enfin.
Picardie, ouais, savoir s'il pleut un peu ou beaucoup.
Il fait 19 là, il pleut pas, il fait beau.
Il fait 19 au-dessus de zéro. Putain, ça a progressé. Alors, la météo, c'est cool parce que... Bon, ben là, c'est deux coups de cadran et je lance ma météo. Donc, c'est vraiment ce rapport physique avec la molette. Météo actuelle, min, max. J'ai aussi la moitié du cercle de l'interface gauche qui représente un espèce de bar graphe pour te dire le taux d'humidité. Et l'autre, c'était pour te dire le niveau d'UV. Ça, c'est pas mal, tu vois, d'avoir le niveau d'UV. Surtout en ce moment, pour savoir si tu dois mettre 4 ou 5 couches de crème solaire à tes gosses. Quoi.
Moi, je suis pas embêté. J'ai un indice UV de 6, là, en Picardie, mais bon.
Au-dessus de zéro ?
Ouais, au-dessus de zéro aussi. Oh, t'es dur. Allez, une vue sur l'agenda, sur la journée en cours pour se retrouver dans nos journées qui sont tout le temps trop surchargées.
Ouais, bah ça se limite à la journée, hein, l'agenda, parce que moi, dans le mien, si je commence à trop naviguer dans les mois et les semaines, je suis perdu. Donc, ouais, vraiment, juste pour avoir un rappel de la journée en cours, c'est assez pratique, mais voilà, c'est pas la révolution, mais ça dépanne et c'est encore un prétexte de moins pour aller allumer son téléphone. Par contre, hors de question d'avoir une saisie dans un agenda, de planifier un rendez-vous sur une montre, quoi.
On est d'accord, on est complètement d'accord. T'as pas quand même un assistant auprès de qui tu peux lui dire ajoute tel rendez-vous à telle date? Ça marche pas trop mal, ça, en général, non? Sur Tizen, t'as pas?
Mais je t'ai dit, je refuse de parler à des machines. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Vraiment, c'est un dogme, quoi.
Ok. Non, mais ça se tient, ça se tient. Alors, des applis. Bon, il y a des magasins de store avec sans doute des coussins péteurs en veux-tu, en voilà, mais il n'y a pas que ça. T'as trouvé des choses utiles?
Surtout chez Android, hein, j'imagine. Là, je suis chez Samsung, donc le store, c'est peau de chagrin, là, encore une fois. Ouais. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'utile? Non, mais vraiment, ça va se limiter à 5 applications. Je pense qu'on a à peu près les mêmes. Le minuteur pour faire bouillir les pâtes. Hein. C'est très pratique de jamais perdre son minuteur. Voilà. Je vais pas plus te le vendre que ça. Quoi.
Ça marche.
Le chronomètre aussi, ça c'est pratique parce que bah déjà à l'époque, quand on était gosse, des montres chronomètres, on en avait plein. Donc l'interface s'y prête bien. Et les chronomètres, j'ai trouvé une merveilleuse vertu pour les chronomètres, c'est pour crever les gosses. En fait, tu leur trouves des jeux où tu les chronomètres et que ce soit courir ou nager, à la fin de l'après-midi, ils sont cramés et tout, on veut plus, quoi. Donc, vive les chronomètres. Mais vas-y, fais-les courir, vas-y, 12 secondes, non, vas-y, tu peux faire 11, vas-y, encore plus vite. En plein cagnard à 14h, je te jure, ils font la sieste après.
Là, il faut que je déménage pour avoir du cagnard à 14h, mais oui, d'accord. Écoute, sur les applis, moi, il y a plusieurs trucs. Alors, il y a des applis natives qui me sont assez indispensables. En fait, ma to-do list, ma liste de rappels, elle est présente sur la montre et je l'utilise beaucoup sur la montre. Il y a CityMapper, qui est l'application bien connue pour se géolocaliser, pour les trajets, notamment en région parisienne, qui marche aussi très, très bien sur la montre. Et tu as des applications qui sont plutôt cool, je trouve, sur Apple Watch, notamment pour la méditation. Donc là aussi, si tu veux faire un peu de petit bambou sans utiliser ton smartphone, tu peux vraiment partir au boulot et te faire après le repas une petite séance de petit bambou pour te rafraîchir le cerveau qu'avec ta montre. Ça, je trouve ça aussi plutôt pas mal. Je crois qu'il y a une petite longueur d'avance quand même côté Apple sur les apps, même si, soyons très 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 clairs, c'est absolument pas déterminant dans une smartwatch comme peut l'être un magasin d'applications pour un smartphone, par exemple.
Exactement, on va pas courir après les applis, on va pas passer la semaine à en tester parce qu'encore une fois, on est hyper limité par l'interface et une fois qu'on a fait le tour des besoins qu'on peut résoudre avec une montre, on a vite fait le tour quand même.
Ouais, ça évite de la perte de temps. Allez, en sport, donc tu disais que t'avais le défaut de faire du sport, Guillaume.
Non, je connais des gens qui font du sport.
Ah pardon, tu connais des gens qui font de la musique, toi, c'est une forme de sport, c'est de la batterie en plus.
Je fais tout pour me séparer de ce genre de gens, mais le sport, non, je sais pas, je sais juste que ma montre au début, elle arrêtait pas de croire que je courais, que je nageais et que j'ai mis un quart d'heure à désactiver tous ces menus. Donc en gros, de ce que je comprends, c'est bourré de coachs qui vont deviner des activités sportives typiques, natation, course, je crois que j'ai vu passer de l'équitation, du tennis, enfin bon, ils vont détecter le sport que vous faites et puis ils vont prendre des mesures pour vous dire à quel point vous êtes un bon sportif, j'imagine. Je sais pas si toi tu as déjà utilisé ce genre de truc.
Moi je l'utilise, mais plus, tu sais, dans le test, que je suis pas un gros sportif déjà, hein, mais il y a effectivement la mesure de l'activité physique sportive via la montre qui marche pas trop mal, qui permet d'avoir des indicateurs. Après, est-ce qu'on en fait vraiment quelque chose, je suis pas certain. Hier, on discutait avec Mike dans le dernier épisode de Tech Café sur le fait que il disait bien que les sportifs, les vrais, n'utilisent pas d'Apple Watch, et je reconnais que Alors, il y a plein de personnes qui sont très sportives et qui se sont remis à faire du sport, notamment dans des remises en forme ou vraiment par passion, qui peuvent utiliser l'Apple Watch, qui servent d'ailleurs des petits anneaux là, qui peuvent être des gimmicks de motivation. Mais quand tu vois souvent des personnes qui font de la course à pied, des purs et durs, quoi, et j'utilise des Garmin, des choses comme ça, et pas forcément des Apple Watch. Mais non, je pense que ça peut être des bonnes aides. Je pense que tous les deux, on n'est pas assez sportifs pour pouvoir relayer ce sujet-là. Il faudra qu'on fasse intervenir d'autres personnes.
Par contre, j'ai fait l'essai et la mienne n'est pas très réputée pour les mesures en contexte sportif. Et dès que tu cours, que tu gigotes trop, que tu transpires, ça part en saucisse, la mesure du rythme cardiaque. Donc, mais du coup, ils ont sorti un modèle sport, donc c'est peut-être pour ça aussi.
Ah, mais c'est bien, c'est un bon prétexte pour en racheter une si jamais on n'est pas convaincu par le modèle
et
de base.
Et puis, il faut se spécialiser, j'imagine que tu ne peux pas être bonne pour tout.
Évidemment, évidemment. On parlait des applis qui étaient utilisables, la caricature des applis qui ne sont pas utilisables pour toi.
La pire, ça doit être le navigateur web.
Ouais.
Mais au secours. C'est rigolo, vraiment. C'est, l'expérience est marrante parce que y a un côté, je te dis, rêve de gosse. Quand on était gosse, on n'avait pas l'internet. Mais d'avoir internet sur un écran, sur ton poignet, c'est vraiment marrant. Après, que ce soit pour naviguer ou pour consulter, c'est vraiment une horreur. Donc, il y a un navigateur qui est même pas par défaut, hein, faut aller le choper sur le store. C'est vraiment pour la démo. De même, on peut lire tout ce qui est vidéo, YouTube, etc. Alors déjà, je suis contre la lecture des vidéos sur un écran de téléphone. Je te dis pas sur un écran aussi ridicule. Ça va en dépannage vidéo coucou de la tata, mais tu te regardes pas un film là-dessus, quoi.
Ouais, tout à fait.
Ouais.
Les jeux vidéo aussi, même combat, évidemment.
Jeux vidéo, j'ai téléchargé Pong et Snake pour rigoler. Et des trucs aussi basiques, ça n'a strictement aucun intérêt. Je veux dire, c'est même pas agréable à utiliser.
Ouais, tout à fait. Alors, pareil pour les applis de prise de notes. Moi, il y a quelque chose que, il y a des apps que je trouve plutôt pratiques, notamment les apps de calculatrice, pour faire des calculs relativement simples. Là aussi, c'est un prétexte, comme tu le dis, de moins d'utiliser le smartphone, et ça marche plutôt pas mal. Le téléphone aussi est quelque chose qui marche vraiment de manière très convaincante sur la dernière génération de l'Apple Watch, au niveau même de la captation du son. Moi, je passe ou je reçois régulièrement des appels avec ma montre, et ça marche vraiment plutôt bien, la qualité de son est au rendez-vous pour la personne en face, et moi j'entends relativement bien. Il y a quelque chose de bizarre juste d'avoir le son qui sort du poignet comme ça, mais ça marche quand même plutôt bien.
Et parler à son poignet, donc moi aussi j'ai le micro et le haut-parleur, donc je peux téléphoner avec la montre, mais purée, écouter son poignet, parler à son poignet, surtout quand t'es en public, mais au secours quoi.
C'est très bizarre, quand même, juste pour la dernière génération de l'Apple Watch, les démonstrations qu'ils avaient faites sont vérifiées et je les ai vérifiées, c'est-à-dire que tu peux avoir une attitude complètement normale, t'es pas obligé de porter ton poignet à la bouche pour parler, ce qui est extrêmement fatigant, mais tu peux continuer à avoir les bras posés normalement, et le son est vraiment tout à fait satisfaisant pour du téléphone.
Ouais, mais du coup, si t'es dans un environnement bruyant,
ouais,
il fait pas le tri, le machin.
Ah, je sais pas, j'ai pas testé.
Tu marches dans la rue, il va attraper tout. Enfin, c'est toujours pareil. Moi, ça m'est arrivé d'utiliser, c'est vraiment en dépannage. Par exemple, je suis en train de bricoler, les mains prises, le téléphone dans une autre pièce. Bon, mais voilà, ça vibre, tu fais tourner le cadran, tu réponds. Mais vraiment pas en public, il faut pas. Et puis, je veux pas que les gens prennent l'habitude de hurler sur leur montre dans la rue. Surtout que toi, tu utilises avec les oreillettes ou ça crache sur un haut-parleur?
Oui, ça m'arrive aussi beaucoup d'utiliser avec les oreillettes sans fil, ouais.
D'accord, ça marche.
Qu'est-ce qui manque? Alors, tu as commencé déjà un petit peu à le dire tout à l'heure, tu parlais notamment des musiciens, il n'y a pas que ça qui manque pour toi, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait imaginer.
Plein d'autres. Moi, j'ai un seul autre besoin, c'est que j'ai une bagnole qui est connectée, donc, et il y a une appli sur téléphone pour lancer la clim, regarder l'état de charge de la batterie, ce genre de truc, et j'aimerais bien faire pareil avec mon téléphone. Et puis là, c'est qu'à 2000, punaise, je veux papoter avec ma bagnole avec mon téléphone. Ouais. En 2019, je veux le faire, ça. Mais là, entre Samsung et Renault, je crois qu'il va me falloir des décennies avant qu'il y en ait un des deux qui se motive à faire l'appli, quoi.
Tu sais qu'il y a plein de choses quand même qu'on peut interfacer. Notamment, on avait fait un épisode sur la domotique avec Julien du blog Ça sert à quoi, qui lui a sa Tesla. Et effectivement, on peut interfacer pas mal de choses avec la Tesla. Et les montres permettent de déclencher des scénarios ou d'interagir avec de manière relativement limitée, mais quand même.
Je suffirai ma Zoé, il me dira si on peut se débrouiller aussi bien qu'avec
Tesla. Je crois qu'on peut, hein, on peut faire des choses avec la Zoé aussi. Par contre, ça demande du temps de bidouille. Je suis pas sûr.
Ouais, mais je te redis. Non, mais c'est ça, j'ai fini cette époque, hein. J'étais un gros geek barbu dans ma jeunesse, mais c'est fini de passer des heures et des heures pour dompter du matos, l'améliorer et
Je suis
l'adapter, lui
d'accord.
faire faire des choses qui seraient à peu près normales. Ça allait au début des années 2000, maintenant, c'est plus le temps, et ni l'envie d'ailleurs.
Ouais, je suis d'accord. En tout cas, je partage ton point de vue. J'ai plus envie non plus de passer trop de temps sur des choses trop de l'ordre de la bidouille. Allez, on enchaîne avec une partie santé, du coup, qui est directement liée à la montre. On parlait tout à l'heure de la captation de données. En quoi tu vois des évolutions par rapport à la santé, par rapport à ce type d'appareil? Je crois que mieux que n'importe qui d'autre, tu es bien placé pour pouvoir nous dire comment il faut appréhender ces choses-là.
Ouais, après toujours pareil, hein, je distingue la santé du médical. Donc la santé, j'ai pas trop d'avis, si ce n'est que toujours pareil, ce genre de choses, ce genre de suivi, ce genre d'indicateur, si t'en fais pas quelque chose, ça ne sert à que dalle. Donc
Tout à fait.
les montres calculent le nombre de pas que t'as fait, analysent ton sommeil. La mienne me propose aussi d'évaluer le nombre de calories que j'ai brûlées, sachant qu'elle ne demande ni mon poids ni ma taille. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'elle se débrouille. T'as des choses qui te permettent du suivi. Par exemple, les vieux qui boivent pas assez, on va leur demander d'appuyer une fois sur la montre chaque fois qu'ils prennent un verre d'eau pour compter les verres d'eau à la fin de la journée, envoyer des alarmes, etc. Il faut jouer le jeu, hein. Donc tout ça peut avoir des vertus. De même, un fumeur, il y a des applis qui te permettent de suivre ta consommation de cigarettes. Mais toujours pareil, tous ces indicateurs, si t'en fais que dalle, la montre va pas le faire à ta place. Et ce qu'on constate dans la santé, c'est qu'au bout d'un moment, on se retrouve inondé d'indicateurs, et puis ça nous gonfle et on arrête, quoi.
On est complètement d'accord. Je pense que ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la captation de données, c'est une chose. Maintenant, il faut la restituer. Il y aura des choses qui seront proposées, hein, vraisemblablement, mais bon. Parfait. Est-ce que tu voulais reboucler sur des éléments par rapport à la montre qu'on n'aurait pas détaillé?
Bah là, je t'ai parlé santé, je vais te parler médical quand même. Maintenant, c'est un petit peu plus sérieux. Donc, juste pour préciser, le médical, c'est une sous-branche de la santé, hein. La santé, c'est très vaste. Le sport est bon pour la santé, les fruits sont bons pour la santé.
L'alimentation, ouais.
L'alimentation, le médoc, là, c'est on te parle de tout bib, de médicaments et de dispositifs médicaux. Donc, on parle de médical dès que la finalité est médicale. C'est pas juste un effet collatéral, c'est vraiment, c'est fait pour ça. Et donc, dans le monde des watches, évidemment, c'est porteur pour le médical parce que c'est un device que tu as en permanence sur toi. Et c'est le seul qu'on ait sous la main pour faire ça, quoi. Donc, on peut faire des mesures dans tous les sens. Dans le monde du médical, on va encore dire qu'Apple a eu le marquage CE, ça y est. La dernière fois qu'on en parlait, c'était la FDA. Il a eu le marquage CE, même si tout n'est pas très clair sur leur site, pour la détection des arythmies cardiaques via leur appli. Donc là, vraiment, c'est du dispositif médical. C'est permis par une montre, parce que justement, la montre, tu l'as tout le temps et elle peut faire des mesures en permanence. L'autre gros géant du web, comme on dit, qui se met là-dessus, c'est Google, qui lui a une watch, mais exprès pour les études cliniques. C'est pas quelque chose de grand public. Ça fait 3-4 ans qu'on en entend parler. Donc eux, c'est leur créneau. Et sinon, j'ai fait mes devoirs avant l'émission. Je suis allé faire un tour sur PubMed, Clinical Trials, etc. Ce sont des bases de données d'études cliniques. A balancé le mot-clé smartwatch. Donc vraiment en rafale, hein, je vais te dire les tendances en ce moment. C'est des études soit qui sont finies, soit qui sont en cours en ce moment. Monitoring de la glycémie, c'est pour tous les bonhommes qui ont du diabète. Et en fait, dans ta sueur, on peut mesurer ta sueur pour avoir une idée de la glycémie. Et ça, c'est le pied pour suivre l'évolution de ton diabète. Et puis le truc de la mort, c'est quand tu pilotes ta pompe à insuline en fonction de la lecture de ta glycémie.
C'est clair.
Cette espèce de truc en boucle fermée qui existe déjà, mais les capteurs, on les met au niveau du bide en ce moment. Et là, ce serait dans la montre.
Il y aurait assez de transpiration, entre guillemets, pour gérer ça?
Eh bien, l'étude le dira.
D'accord. OK.
En tout cas, là, on est vraiment sur des phases d'évaluation clinique, hein. On regarde si ça marche, en fait.
Ouais.
Plein d'études sur des mesures ECG. Tu sais qu'Apple l'a validé, mais il n'y a pas que lui qui veut le faire. Donc, par d'autres algos, par d'autres montres, vraiment, c'est très porteur parce que les problèmes cardiaques, c'est un gros marché et que la montre peut très bien faire le boulot parce qu'elle est au niveau de ton poignet. Je veux dire, c'est royal pour aller choper au moins un signal d'ECG. Une autre étude clinique, c'était on a effilé des watches aux infirmiers, si tu veux, dans un établissement de santé. Et les patients, au lieu d'interagir avec les infirmiers par le petit bouton mural, tu sais, la cloche alarme, j'ai faim, j'ai pipi, j'ai bobo, etc., ils papotaient avec l'infirmier avec une appli où ils pouvaient dire bah, leurs besoins, leurs ressentis, leur état de santé. Et on a démontré que via ce système, la prise en charge était meilleure parce que déjà c'était plus agréable et l'information était obtenue plus rapidement et de manière plus pertinente.
Plus précise. Ouais.
Voilà. Et là, bah, pourquoi une watch? Parce que toujours pareil, l'infirmier l'a toujours à la main. L'infirmier, je veux dire, dans un établissement de santé, tu cours partout, tu te vides les poches toutes les 5 minutes, etc. Les téléphones, tu peux les oublier assez rapidement. Ouais. La watch, au moins, tu ne l'oublies pas. Donc, c'était ce qu'avait justifié. Une autre étude clinique, c'est on utilise une watch en fait pour faire du diagnostic de Parkinson parce que bah, tu as commencé un petit peu trembler avant vraiment que ce soit grave et la watch en analysant tout ça sur la durée et l'évolution de tes tremblements va te faire un diagnostic autour de Parkinson.
Ça montre la sensibilité de ce type de capteur finalement parce que pour arriver à capter ça
ouais.
De la plus précoce possible, non?
En fait,
il y a le modèle
si
aussi
vu...
de tremblement qui doit être clé.
C'est ça. Quand tu vois Jean-Paul II ou même Merkel en ce moment, c'est pas très très dur à gauler des tremblements.
Oui, effectivement.
Il y avait quoi d'autre? Je regarde, j'avais pris des notes. Ah, celui-là, il est marrant, c'est pour de la dermato. On va te diagnostiquer des problèmes de gratte nocturne. En fait, c'est sexy et glamour au possible.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Bah, des problèmes de dermato qui font que tu te démanges la nuit.
D'accord.
Et tu t'en rends pas compte vu que c'est la nuit, mais la montre va choper à ta place.
Ok, oui, effectivement. Oui, c'est simple pour la montre, effectivement. Ouais.
Voilà. Ensuite, des applis hors capteur, c'est vraiment pour tout ce qui est suivi de prise de médicaments et coaching. Donc, tu renseignes ta montre quand tu as pris ton médoc et t'engueules quand tu l'as pas pris. En gros, c'est ça. Et un petit dernier. Détection de cigarettes, tiens, voilà, ils sont en train de bosser dessus, et on regarde, mais bon, faut fumer de la même main que la montre, hein, ce qui est pas évident, c'est là où je me pose la question, mais on doit gauler combien tu te prends de clopes tous les jours avec une petite appli sur ta montre.
Ou porter deux montres, quoi, une à droite et une à gauche, quoi, tu vois. Ça fait beaucoup.
Ou te couper un bras avant, comme ça on est sûr de pas se tromper. Voilà un petit peu les études. Franchement, c'est le diabète hein, qui clignote à fond. Ouais. Google est là-dessus, tout ce qui est cardiaque. Et après, le reste, c'est plus rigolo qu'autre chose.
Ouais. Bon, c'est intéressant d'avoir ton regard en se rendant compte qu'il y a des secteurs où effectivement ça porte ses fruits et où d'autres secteurs des dispositifs médicaux, de la santé, où c'est plus rigolo qu'autre chose. Ok. Bah, écoute, parfait. Alors, on a bouclé tout notre conducteur de smartwatch, mais peut-être que ça laissera place à des personnes qui nous écoutent de nous poser des questions. Donc, je te propose, Guillaume, qu'on se mette en task force là pendant quelques jours après la diffusion de l'épisode en se disant une fois de temps en temps, on ira regarder. Si on a des questions, on se fera un grand plaisir, je pense, de répondre à vos questions avec des regards peut-être assez complémentaires. Vous l'avez vu, de par le profil de Guillaume Promé et aussi de par la nature même des smartwatches, on a parlé très très vite de santé et surtout de dispositifs médicaux et de médecine en général liés à la montre. Et il y a un sujet de fond qu'on aborde aussi régulièrement avec Guillaume. On n'a jamais trop l'occasion d'ailleurs d'en parler de manière assez confortable parce que ça se fait à l'époque où tu étais sur Twitter à travers des tweets interposés, ce qui est tout sauf pratique. On parlait assez régulièrement d'homéopathie et on se proposait, tu proposais d'enchaîner un petit peu et de parler d'homéopathie pendant quelques minutes. On sort un petit peu de Tech Café. Pour autant, je pense qu'il y a des parallèles aussi à faire avec l'univers de la tech. Allez, tu nous fais un petit résumé de l'état des lieux de l'homéopathie peut-être et pourquoi c'est de la controverse en ce moment. Et puis tu nous fais part aussi de...
Je préférais que tu le fasses. Le
résumé. T'es dur.
T'adores ce sujet et le défi, c'est que tu le fasses de manière objective.
Alors, je vais tenter de le faire de manière objective et puis tu me couperas dès que je vais trop loin. Alors, l'homéopathie... Ça va être compliqué, c'est pire que des tweets. L'homéopathie, pour remettre les choses dans leur contexte un tant soit peu historique, et c'est pas préparé, hein, j'aurais dû préparer, me faire des notes, sachant que j'allais me faire piéger, mais bon, remonte à une époque lointaine où, en fait, on peut comparer hein, l'époque de l'homéopathie au moment où ça a été conçu, inventé et développé, correspond en gros à l'époque où c'était l'âge d'or des saignées, donc de dire on va soigner les gens en faisant des saignées parce que ça va évacuer leurs difficultés. Donc les principes de l'homéopathie étaient sont les suivants, donc un principe de similitude qui est de dire en gros on vous soigne avec en vous faisant absorber des éléments qui sont censés provoquer les mêmes conséquences. Donc par exemple, un exemple qui est sans doute assez mauvais, assez approximatif, mais qui vous donne quand même une idée, c'est que si vous avez de la fièvre, eh ben on pourrait imaginer vous faire ingérer du venin d'un animal qui vous provoque de la fièvre par exemple, hein. Et bien sûr, pour éviter de vous faire ingérer du venin qui vous tuerait, on va l'atténuer fortement, et pour l'atténuer ce venin, on va le diluer très 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 fortement, au point que si on mesure, si on était capable de mesurer le nombre de molécules qui restent après toutes les dilutions, on arriverait à se rendre compte qu'il n'y a statistiquement plus une seule molécule dans le produit final, et donc vous absorbez l'eau qui a été exposée à ce venin initialement. Ça peut se faire aussi sous la forme de granules de sucre qui sont qui font l'objet de diffusion de cette eau, et donc grâce à ce qui s'apparaîtrait, ce qui serait présenté comme la mémoire de l'eau, on arriverait à provoquer des réflexes dans notre corps, donc en se basant sur les principes de l'homéopathie. C'est pas les seuls principes, il y en a plusieurs. Si on veut être vraiment précis, il y a notamment le principe d'individualité, si je dis pas de bêtises, qui est de présenter le fait que un médecin qui prescrit et qui fait une consultation d'homéopathie ne peut pas déjà faire sa prescription en deux minutes simplement en écoutant la personne, mais doit prendre le temps d'échanger avec la personne pour bien prendre en compte l'individu en tant que tel et vraiment lui faire une prescription et un accompagnement qui soit vraiment à part entière et individualisé. En gros, c'est pas une consultation médicale avec un médecin classique où vous passez 10 minutes, vous donnez votre carte vitale et vous repartez avec votre ordonnance. Là, il y a vraiment une écoute qui est nécessaire. L'homéopathie, c'est quelque chose qui est vraiment hyper installé en France particulièrement, et qui a très objectivement maintenant, sur la base, je pense, de très nombreuses études, des effets qui sont mesurés et qui sont systématiquement comparables aux effets qu'on peut avoir en consommant des placebos. Donc en gros, l'effet il est réel, il est absolument pas fictif, et quand on dit effet placebo, il faut surtout pas s'imaginer que ce sont des personnes qui inventent le fait d'aller mieux ou inventent le fait d'aller moins bien, mais c'est vraiment des choses qu'on peut mesurer de manière assez objective. Donc il y a cet effet placebo qui a lieu, qui est d'ailleurs présent aussi quand on a des traitements médicaux. Donc quand on évalue un médicament, il faut arriver à évaluer quelle est la part on va dire chimique d'une certaine manière de ce médicament, mais aussi quel est l'effet placebo induit par la consommation de ce médicament. Et sur cette base-là, il y a une divergence qui s'est fait de plus en plus forte, notamment sur les réseaux sociaux, j'espère que je ne prends pas trop de raccourcis, mais de personnes qui se sont dit, à partir du moment où l'homéopathie n'a pas d'effet plus que celui d'un placebo, on considère que c'est mentir aux gens et que c'est pas respecter les fondements de la médecine, et on considère, en tout cas de notre côté, que ce ne devrait plus être remboursé. Et je crois que c'était un peu l'élément phare de la controverse autour de l'homéopathie, c'est que l'homéopathie était remboursée dans des grandes proportions historiquement, et dernièrement n'était remboursée qu'à hauteur de 30% par la sécurité sociale. Après évaluation par la haute autorité de la santé et suite à la décision de la ministre de la santé, ce remboursement va passer à 0% en 2021, si je dis pas de bêtises, avec une étape intermédiaire à 15% en 2020. Et donc, notre point de divergence principal à Guillaume Promé et moi ne porte pas sur est-ce que l'homéopathie a des effets plus que placebo en tant que produit. Je pense que à la limite, et toi et moi, on a le regard sur les études et les méta-analyses qui permettent d'avoir cette vision assez claire que l'homéopathie n'a pas de plus-value en tant que produit, en tant que tel. En revanche, autant moi je critique l'homéopathie parce que je considère qu'elle induit en erreur les gens et qu'elle participe à un peu les filouter, et je pense plutôt qu'on a beaucoup de mérite à leur apporter de l'éducation et de plus en plus de savoir ce qu'ils ont et ce qui leur arrive et comment ils sont accompagnés. Là où peut-être toi tu as un point de divergence, et j'espère que je ne transgresse pas ta pensée et ta vision des choses, c'est plutôt de dire que oui, toi aussi tu es donc d'accord sur le fait que l'homéopathie n'a pas plus d'effet qu'un effet placebo. Pour autant, les vertus qu'il y a à l'homéopathie telle qu'elle est proposée aujourd'hui sont importants et il y a des plus-values et on va s'écarter ces plus-values en critiquant trop largement l'homéopathie. Est-ce que j'ai dit beaucoup de bêtises, Guillaume ?
Dès que tu as voulu parler du pseudo-argumentaire scientifique qu'il y a autour de l'homéopathie, tu as dit que des conneries parce que c'est un tissu de conneries, ce truc, hein, à la base, la mémoire de la flotte, la dilution et tous ces trucs, ça date vraiment d'une époque, c'est quoi, c'est le 17e siècle, je veux dire, pour l'époque, c'était innovant et ça paraissait pas trop con-con, hein, pourquoi pas, je veux dire, ça vaut le coup d'essayer. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que c'était complètement de la foutaise et qu'effectivement, d'un point de vue scientifique et un point de vue action physiologique sur le corps, l'homéopathie est un placebo. Là où je suis pas d'accord dans cette histoire, c'est que je voudrais garder le placebo, si tu veux, comme possibilité d'accompagner la santé des gens. Et je trouve que c'est vraiment une approche uniquement dogmatique qui a fait que tu as eu 200 excités.
254, je crois, non ? Je sais plus exactement combien, ouais.
254 là-dessus.
Fake Med.
Je vais te dire, ça m'a beaucoup rappelé un petit peu, tu sais, les bonhommes, les journalistes qui ont été balancés à l'époque de Balance ton porc. Mmh. Ça me rappelle cette ambiance parce que c'est des jeunes qui aiment bien Twitter, qui aiment bien faire des blagues, qui aiment bien les mèmes, qui sont assez dans l'excès dans leurs propos. Et c'est quasiment que des mecs. Hein. Je ne sais pas si tu es allé voir le collectif anti-fake mec. C'est Jérémy, Laurent, François, Kevin, Mathieu et t'as Céline au milieu, quoi. Donc ça connote un petit peu cet effet de bande et s'attaquer à un problème aussi sérieux de manière aussi triviale, j'ai pas du tout adhéré. Et donc sur le fond, effectivement, eux ils disent que c'est une escroquerie de proposer un placebo à un patient parce que ça n'a pas d'effet physiologique. Ben c'est là où je suis pas d'accord sur le raisonnement, c'est que le placebo joue beaucoup pour il y a beaucoup de thérapies où l'effet placebo joue énormément, des fois même sur un médicament dans le sens noble du terme, t'as en gros un tiers de l'effet, ça peut aller jusqu'à un tiers de l'effet qui est dû au placebo.
Et même en chimiothérapie.
Même en chimiothérapie, je vais te dire, le placebo, on s'est rendu compte que ça a des impacts en respi. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé dans le respiratoire, moi, et pendant les études cliniques, on avait des patients, mais on n'avait pas fini de brancher le dispositif que déjà, ils allaient mieux. Ouais. C'est pour te dire un petit peu, parce qu'ils sont pris en main, ils sont écoutés, ils ont un nouveau truc. Et quand tu as l'impression d'être aidé, quand tu as l'impression que les choses vont aller mieux, et ben en gros, ça t'aide à ce que ça aille mieux. Voilà, c'est un petit peu toute la vertu de l'effet placebo. Et je trouve ça gueudin que juste par principe plus ou moins scientifique, parce qu'ils se sont opposés sur quoi ? Sur le fait de dire que dans une étude clinique pour des médicaments, on se compare à du placebo. Et forcément, l'homéo, par rapport au placebo, elle peut pas gagner vu que c'est un placebo. Je veux dire, et ils ont découvert la lune, les mecs. Et du coup, fort de ce constat, et ben, les 7 millions de Français qui ont pris de l'homéopathie dans l'année, et ben, on leur dit merde. Et parce qu'il y a ce dogme, on le sort complètement du circuit. Donc je reçois l'argument, effectivement l'homéo tu peux pas la qualifier tout comme tu qualifierais un médicament parce que ce n'est pas un médicament, il n'y a pas de principe actif. Mais du coup, c'était biaisé, cette approche, vu qu'on savait très bien que la manière de le juger, on allait le dégager. Et c'était surtout ne pas s'intéresser à toutes les vertus que peuvent avoir l'effet placebo pour un patient. Et l'effet placebo, je vais te dire, l'homéopathie, c'est pas cher, c'est pas dangereux, et ça aide beaucoup de gens. Voilà, ça les aide, il n'y a pas d'effet physiologique, mais putain, les gens, ils vont mieux à la fin. Ils sont mieux dans leur peau, ils sont plus enclins à attaquer les petits bobos de l'hiver. Tu sais, on te dit de prendre de l'homéo avant pour prévenir les rhumes. C'est juste que tu as l'impression que tu iras mieux, et ton corps, il est parti pour affronter des pathologies qui, globalement, se soignent toutes seules, et bien là, il sera plus enclin à les affronter. Ça coûte que dalle, ça faisait beaucoup de bien à beaucoup de gens, et vraiment, par dogme, on a décidé de le virer. C'est là où j'en veux aux gens qui sont à l'origine de tout ça, c'est que dans une approche scientifique, honnêtement, il fallait se poser, dire « bon, Boiron, vous abusez quand même avec toutes les conneries que vous racontez autour, maintenant on va mettre les choses à plat, on va arrêter de parler de la magie du sucre et de la mémoire de la flotte, et on va travailler sur l'effet placebo, parce que c'est pas cher, parce que les patients en veulent, et parce que ça leur ajoute des chances, ça pèse énormément l'effet placebo. » Et au lieu de ça, on a tout le temps envoyé chier, Et pour m'être tapé le rapport de la HAS, qu'est-ce qu'ils disent à un moment, sur le plan éthique, certains intervenants ont développé l'idée qu'aujourd'hui, l'utilisation consciente d'un placebo par le médecin n'est plus acceptable. Ben, je les emmerde, ces gens. Je suis absolument pas d'accord avec cette opinion. Et pour aller encore plus loin, c'est un problème effectivement contemporain, parce que le placebo, c'est à la base de nos évaluations cliniques. Il y a des bonhommes qui ont essayé de voir si, quand tu utilises un placebo, en sachant que c'est un placebo, est-ce que ça marche toujours? Bah ouais, ça marche toujours, parce que tu as toujours l'accompagnement qu'il y a autour, tu as toujours l'impression qu'on va faire quelque chose de bien pour toi.
Ça marche donc peut-être pas exactement les mêmes proportions, non? Si, je dis des bêtises, hein. J'ai pas de chiffres sous les yeux. J'avais tendance à penser que ça marchait
dans l'étude,
un peu moins bien, mais je...
Ils ont vu aucune différence significative okay, entre les gens qui savaient qu'ils prenaient un placebo et les gens qui savaient pas qu'ils prenaient un placebo. Et après, le placebo, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on bosse dessus. C'est, de manière sérieuse, hein. Ça a pas été très, très bien considéré dans la médecine jusqu'à présent. Et c'est la folie comme c'est efficace. Il y a des hommes qui ont essayé des chirurgies placebo, c'est-à-dire t'as un problème articulaire, je t'ouvre, je t'incise, je te referme, et ben putain tu vas aller mieux, et ça va durer des mois et des années parce que t'es convaincu que je t'ai fait quelque chose, ou alors peut-être que le fait d'avoir fait une chirurgie ça a réveillé ton corps et qu'il s'est dit il va falloir que je bosse pour corriger le problème. Mais le placebo marche, et moi qui m'intéresse beaucoup à l'évaluation du rapport bénéfice-risque des produits de santé, je trouve que bien utilisé, le placebo ne présente aucun risque, vu que c'est un produit inerte, hein, c'est du sucre de la flotte. Bien utilisé, c'est-à-dire s'il ne t'éloigne pas de prise en charge qui sont pas gérables par placebo, etc. Bien utilisé, ça pourrait faire du bien aux gens, ils pourraient être en meilleure santé et ça nous coûterait moins de fric. Donc, dans cette histoire, je suis hyper déçu de la manière dont l'ensemble a été traité, hein. C'est pas l'homéopathie en particulier. Agnès Buzyn, j'ai trouvé assez courageuse d'avoir tenu tête, hein, parce que c'était pas gagné de le dérembourser. Elle a eu beaucoup de pression, donc là-dessus, je trouve que c'est une femme très bien. Mais dans le fond, c'était biaisé. Si on se tenait juste sur l'avis de la HAS qui se base sur des études contre placebo, ils ont fait une revue de 21 études. Évidemment qu'on allait le dégager, l'homéopathie. Et ouais. Pour finir, ce qui me choque, c'est qu'on conclut que ça n'a aucun effet, que ça pourrait être dangereux, du moins c'est dans la bouche des détracteurs, mais on se satisfait du fait que ce soit juste déremboursé. Le fait que tu aies encore 7 millions de bonhommes qui le prennent, ce produit qui est à l'origine de toutes les saloperies du monde, selon les détracteurs, ça ne dérange personne. Mais elle est où la victoire là, pour la santé? C'est vraiment de l'ordre du symbole. Et après, pour finir, économiser 120 millions par an. Enfin, moi, j'avais compté 56 quand je suis allé voir les chiffres de l'INSEE. Mmh. Grosso modo, j'avais fait le produit en croix, c'est 0,2% des remboursements totaux en France. Et surtout, c'est quelques euros par patient satisfait. Maintenant, ces patients, tu en as une partie qui vont encore plus se détacher du discours officiel. Je suis désolé, mais on va enfermer l'homéopathie du côté des charlatans, du côté des colliers en ambre, de côté de toutes ces merdes, en les sortant des facs de médecine. Et je pense qu'à terme, on va faire plus de mal que de bien avec cette décision.
Bah c'est hyper intéressant ton retour, et c'est ce qui, moi, achève de me convaincre sur le fait qu'on peut pas être de toute façon pleinement, enfin si on peut techniquement, mais le bon sens veut qu'on ne soit pas complètement dans un camp ou dans l'autre, si tant est qu'il y ait deux camps. Et ce que j'aime bien dans ton approche, et qui vraiment, hein, je me permets de souligner le fait que je ne pense pas quand même que ce soit pas une grande majorité des soutiens de l'homéopathie. Moi, il y a encore une fois cette vision de nombreuses personnes. Effectivement, comme tu le dis, je raconte ce qui paraît être aujourd'hui hyper évident pour plein de monde, qui est que la mémoire de l'eau, c'est quelque chose de trivial et qui évidemment n'existe pas. Mais pour autant, dans les différents discours et les différents échanges que je peux avoir autour de moi, où je me contiens, hein, je prends évidemment pas la parole dans ces moments-là, il y a énormément de personnes autour de moi, et que je vois passer sur les réseaux sociaux, qui soutiennent justement ce type de fonctionnement, qui soutiennent des fonctionnements par mémoire de l'eau, qui soutiennent le fait que il faut ingérer des trucs qui traitent le mal par le mal. Et moi, le truc qui est vraiment au cœur de ma réflexion, c'est pas les personnes qui, comme nous, sommes un tant soit peu éduquées et qui ont un tant soit peu de bon sens. Ce qui me gêne vraiment sur le fond, c'est le fait que des personnes souhaitent se vacciner contre la grippe avec l'oscillococcinum, quoi. C'est vraiment des choses qui me dérangent, et je suis d'accord sur le fait que ce sont des travers, que c'est peut-être pas la majorité. On n'est pas, j'ai pas de chiffres non plus sous les yeux. Je suis convaincu qu'il y a des vertus et je suis convaincu que dans le parcours au global, il y a des choses très positives. Je suis d'ailleurs vraiment, je le souligne encore une fois, je pense que l'effet placebo, il faut pas le voir comme quelque chose de négligé ou d'imaginé. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui se mesure et si on peut capitaliser dessus, faisons-le, ça c'est clair. Ce qui me gêne vraiment, c'est les travers et je ne peux jamais me satisfaire de mon côté d'abuser quelque part de la croyance des gens pour profiter d'un bénéfice quel qu'il soit. C'est un peu ça qui m'embête.
Ouais, là je serais extrêmement critique parce que dans la médecine traditionnelle, le patient ne comprend strictement rien à ce qu'on lui fait, à ce qu'on lui propose, je te jure. Mais déjà que le toubib, dans beaucoup de cas, il n'a pas toutes les données sur ce qu'il prescrit comme substance, comme chaîne thérapeutique. Je veux dire, on est dans... c'est extrêmement compliqué. T'as juste le fabricant du produit et l'évaluateur qui connaissent à peu près le sujet. Ensuite, pour tout communiquer, il faut abandonner l'idée de tout comprendre. Il faut par contre s'accrocher à l'idée d'avoir confiance, d'avoir un interlocuteur de confiance. On ne va pas demander aux gens d'avoir une culture médicale, une culture scientifique avant d'aller se faire soigner. C'est pour ça qu'on a des professionnels de santé, quoi. Je reviens sur ton histoire des vaccins. Dis-toi que tous les anti-vax, là, on les a complètement confortés dans leur approche, que l'HAS n'est pas à l'écoute des gens, que tout ça est manipulé par des lobbies to lobbies. Et je te jure que ça, enfin, je vois pas en quoi on pourrait améliorer les choses vis-à-vis du rejet de la science, des vaccins, de la validation clinique, etc., avec ce genre de scissure qu'on a fait entre une partie des gens et les représentants de la science. Je pense que c'est extrêmement délétère et que ces gens vont rester dans leur délire. Ils vont encore moins écouter le discours officiel qui a foutu un coup de pied au cul à un truc purée. Mets-toi à la place des gens. Ils avaient pas l'impression de faire de mal, ça leur faisait du bien, ça coûtait pas cher, ils enfilent à leurs gosses. Quand t'enfiles à tes gosses, c'est que vraiment t'y crois à ce truc. Et là, parce que 200 excités se sont énervés sur Twitter, on va te le virer. Je pense qu'il va y avoir une perte de confiance et que là, on a merdé.
Ouais, alors aussi pour remettre les choses dans leur contexte, hein, je pense que les 200 excités prenaient aussi la parole, mais qu'il y avait tout un vent de protestation contre l'homéopathie de la part d'une bonne partie. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que ces 250 personnes de fond.
Non, je ne suis pas. Je pense que tu ne trouveras pas autant de détracteurs de l'homéo que d'utilisateurs, par exemple. Donc, rien que là, tu vois, t'as pas 7 millions de gens qui sont prêts à tuer père et mère pour dégager l'homéo. Non. On en était vraiment là avec les excités. Effectivement. C'est alors ça, vraiment, c'est pas démocratique, cette histoire. Mais c'est les gilets jaunes du médical, ces mecs. Voilà.
Et là où, en tout cas, je te rejoins beaucoup, c'est sur cette notion de des gens à qui on ne demande pas d'avoir fait 5 années de médecine pour aller voir le médecin et ils comprennent pas nécessairement ce qui se joue en phase 2. Alors, pour autant, ça veut pas dire qu'il faut abuser de cette situation et leur masquer les choses, mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est pas nécessaire de tout comprendre pour être bien soigné. Ce qui est un peu déroutant, c'est que justement les gens ont vachement d'avis sur leur médecin et ils ont vachement plus d'avis sur leur médecin que sur leur garagiste, quoi. Ils disent ce médecin, il est vachement bon, il est pas bon, il m'écoute pas, il y a qu'à voir, j'étais hyper malade, je suis ressorti avec une ordonnance qu'avec du doliprane et un sirop pour la toux, enfin c'est pas normal, il aurait fallu des antibiotiques. Et les gens il y a ça et l'environnement éducation aussi, c'est-à-dire qu'ils sont très bien placés pour savoir si leurs profs de leurs enfants sont des bons profs ou pas. Te rejoins.
Tu t'investis vachement là-dedans, c'est ta santé, c'est ton éducation, donc tu as envie d'avoir ton avis. Je reboucle sur l'effet placebo, en fonction de ton toubib, de son empathie, de son écoute, de ce qu'il va te dire, de ce que tu auras en tête en rentrant chez toi après la consulte, ça aura un effet direct sur l'évolution de ton état de santé, c'est un truc de fou. Le médecin, si tu sens qu'il en a rien à foutre, tu vas pas aller mieux. Si tu sens que vraiment il est avec toi, ça te fait un réconfort de plus. Je l'ai vécu avec des gens en réanimation. Quand t'as le personnel hospitalier autour qui est aux petits soins, etc., ils arrivent à se tirer de leur merde. Quand plus personne en a rien à foutre, ils s'écroulent. Tu le vois aussi chez les vieux. Je dérive un petit peu, mais juste pour dire que le toubib aussi a sa part d'effet placebo. Et typiquement, quand tu rentres chez le toubib, rien que de voir sa blouse blanche avec son stéthoscope autour comme dans les stock photos, tu vas mieux, quoi.
Et combien de fois, moi, je me suis senti mieux rien qu'en rentrant dans la salle d'attente du médecin, de toute façon.
Mais ça, c'est une fake science, mon bon monsieur. On pourra pas le prouver dans une évaluation clinique, mais arrêtez, à cause de vous, on va tous mourir du cancer du sida.
Possible. Et allez, tiens, un dernier truc hein, quand même, c'est que à l'époque aussi, pourquoi l'homéopathie a aussi eu autant de force et continue probablement d'en avoir peut-être autant aujourd'hui, c'est justement sur la durée d'écoute qui était recommandée par les médecins homéopathes. Et il faut reconnaître que, ben oui, en étant plus écouté par son médecin, ben on en arrive sans doute à avoir plus de conclusions plutôt que d'être traité avec des séances de 10 minutes. On peut comprendre le fait qu'il y a besoin de voir beaucoup de patients pour beaucoup de médecins, mais il y a aussi cette attente, je pense, d'avoir un vrai dialogue et d'instaurer un échange dans le cadre d'une prise en compte médicale. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour? Et tu vois qu'on n'était pas si éloigné que ça sur vos positions. Moi, je te le disais, Guillaume, si on a une divergence de fond,
ouais,
c'est pas si...
Mais... C'est pas si... Ton enthousiasme vis-à-vis du traitement de cette affaire m'a...
Ça t'a déçu.
Ça a contribué au fait que je me suis barré Twitter aussi. C'est que j'avais vraiment l'impression...
Pas moi, quand même.
Guillaume, et tu fais le rapport entre les tweets intéressants et les tweets qui relèvent de l'indignation, de « je gueule pour gueuler », de « ça, ça me plaît pas ». Tu verras que Twitter véhicule essentiellement des choses négatives, et honnêtement, toi t'es pas le même sur Twitter que dans Tech Café, par exemple.
C'est possible.
Et donc je trouve qu'à force de vouloir épouser les codes d'un réseau social assez limité, ben on se limite, et c'est pour ça que je suis parti en courant, parce que je devenais con aussi. Il y a des fois, je voyais des articles, je me disais, oh putain, celui-là je vais le lire rien que pour le balancer sur Twitter pour pouvoir m'indigner derrière. Eh ben non, faut arrêter de faire ça. C'est pas comme ça qu'on construit des choses.
Alors tu sais que j'ai été pas mal absent de par une formation que j'ai eue là pendant pas mal de mois. J'ai l'impression d'avoir été moins présent sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. J'avoue que je m'en porte pas plus mal. Donc tu vois si ça peut te conforter dans cette vision-là des choses. Bon, ben merci beaucoup en tout cas Guillaume pour tous ces échanges et ces points de vue. C'est hyper intéressant d'avoir ces regards éclairés et de continuer à affiner un petit peu nos opinions sur ce sujet et plein d'autres. Tu es venu en plus avec des bonus, Guillaume.
Tout à fait, des bonus. Alors, un premier bonus, c'est dans l'univers de la tech, une newsletter. Je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Tech Trash.
Pas du tout.
Je sais pas comment je suis tombé dessus, mais en gros, ça me permet de réviser ce que souvent vous racontez le lendemain. C'est quelque chose d'assez critique et donc c'est très marrant. À la fin, ça se conclut toujours par quelque chose d'intéressant. Donc, je t'invite vraiment à jeter un œil. Et surtout, c'est bourré d'humour. C'est de la même famille que GPP qui devait être derrière tout ça, que Guillaume Poggiapal.
c'est vraiment la même famille.
Ça me rappelle cette ambiance, quoi.
Très bien. Eh ben, je vais m'inscrire. C'est une newsletter. Pas mal. OK.
Vraiment, c'est le rendez-vous du mercredi et c'est une des newsletters que j'attends hebdomadairement avec impatience. Et ensuite, je voulais vous brancher sur des podcasts. Qui sont tous plus ou non, c'est des podcasts qui sont pas forcément branchés sur la tech, mais la tech est devenue un sujet tellement important que, à mon sens, quand on s'y intéresse et quand on veut comprendre les choses, il faut aussi aller taper dans des podcasts qui vous parlent de science, qui vous parlent d'économie, qui vous parlent de philosophie, etc. Donc les podcasts que je vous propose, c'est Superfail. Superfail, c'est un format assez court qui vous raconte un fail. C'est assez marrant. Ça a été produit par Radio France. Mais c'est esprit pour le podcast, hein, c'est pas diffusé sur les ondes.
D'accord.
La méthode scientifique qui vous parle de science, j'ai mis en lien un épisode qui parle de l'effet placebo. La conversation scientifique, c'est un podcast, tout ça c'est des émissions de Radio France. Hein. Conversation scientifique, on est plus sur une approche philosophique, et je te jure qu'en ce moment on a besoin de se poser des questions, on a besoin d'avoir des réponses qui passent par la philosophie. Et sinon, un truc assez costaud, c'est la chaire informatique et sciences numériques qui fait des émissions. C'est au Collège de France que tu retrouves ça. Là, faut juste se dire que quand tu es intéressé par un sujet, tu vas te taper un gros expert pendant 8 heures d'affilée. Mais au moins, tu apprends des choses. Et le dernier, c'est Entendez-vous l'écho, parce que vraiment, l'impact de la tech sur l'économie est capital. Et même une émission qui parle d'écho, je veux dire un sujet sur 4, est connoté tech de nos jours.
Ouais, effectivement, ouais, ou au moins des imbrications tech pour tout ou partie, effectivement. Et quand on voit ce qui se passe autour de moi, Libra, en tout cas, par exemple, c'est un sujet tech dont on a déjà parlé dans Tech Café. Je pense qu'il faudra qu'on en reparle. Non pas d'ailleurs dans sa proposition en tant que telle, puisqu'on voit qu'ils vont être... amené à devoir jongler entre une monnaie qui soit vraiment une crypto-monnaie décentralisée et s'ils veulent la rendre vraiment utilisable, jouer le jeu de pas mal d'acteurs financiers. Donc, il va y avoir ce difficile équilibre à trouver qui fait que ça va être difficilement viable. Mais le move est intéressant et le mouvement de voir comme ça des sociétés privées qui prennent part sur des domaines qui étaient avant des choses qui étaient préservées par les États vis-à-vis de leurs citoyens, je trouve ça fascinant en tout cas.
Ouais, moi j'ai peur, honnêtement, ça fait partie des sujets. Si on se les a gardés, si c'est étatique, ce genre de choses, c'est pas
d'accord.
pour rien.
Je
Et
suis entièrement
que ce
d'accord.
soit je vais te dire, le pognon, la santé et les bonhommes qui font la guerre, et les flics et les pompiers, et les routes et les énergies, il faut que ça reste au niveau de l'État, ça, sinon on s'en tire mal.
On est d'accord sur l'intention, mais j'ai l'impression que tout le monde n'est pas d'accord, donc on va continuer à suivre ça épisode après épisode. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi sur tous ces sujets et surtout d'avoir initié ces conversations. Tu nous rappelles où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Sur mon site internet Qualitizo.
Et donc, on peut pas t'envoyer de tweets, de choses comme ça ?
Non, mais je t'assure, hein, réfléchissez à ce que vous apportent les réseaux sociaux et à tout ce que ça vous prend, faites la balance bénéfice-risque et tirez-vous. Quoi.
Et en fait, quand on reprend tout le fil du conducteur de l'émission, on a gagné du temps sur les smartphones et la consommation peut-être de plein de choses, et du coup on peut passer plus de temps à écouter du contenu tel que les podcasts que tu as recommandés, ou peut-être aller consulter les contenus sur ton site, bon, qui s'adresse plus à une niche quand même.
C'est une niche, ouais.
J'en ai fait un. En tout cas.
Ouais. Des fois, je fais des blagues qui sont. Mais quand t'es pas dans le contexte, c'est dur à piger. Effectivement.
Bon, merci beaucoup en tout cas, Guillaume.
Allez, merci à toi, Guillaume.
À très bientôt. Ciao.
Bye bye.